Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Nicole, diffusé en direct ce mardi 9 septembre 2014 de 18h à 21h, de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30 et puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie.
Nous allons maintenant parler de deux ouvrages que Jean-Pierre Turbac, directeur des éditions italiques, ici présent, nous propose en cette rentrée de septembre. Hein. D'une part, un ouvrage consacré au grand rabbin Bloch, une personnalité importante de la communauté israélite qui joue un rôle tout à fait exemplaire en 1914. Puis d'autre part, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le récit qu'un petit Alsacien nous fait de son expérience de la guerre entre 1914 et 1918. Alors Jean-Pierre Turbac, tout d'abord, ce grand rabbin Bloch, qui est-il quelles sont les manifestations qui, ces jours derniers, ont rappelé ce qu'avait été son rôle et son sacrifice durant la guerre?
Le grand rabbin Abraham Bloch, puisque c'est son nom et son prénom, est représentatif de certains membres de la communauté israélite que j'ai bien connus dans mon enfance dans l'est de la France, qui étaient ces juifs français de confession juive, qui étaient français d'abord et qui étaient extrêmement patriotes. Le grand rabbin Abraham Bloch est né en 1859, donc il était âgé, on le mesure tout de suite au moment du déclenchement de la guerre, qui lui vaudra de passer à la postérité. Il est né dans le 7e arrondissement de Paris, qui en fait était le 3e actuel, donc dans le quartier juif de la capitale, dans une famille de juifs alsaciens d'origine polonaise, des Ashkénazes d'origine polonaise, qui a opté pour la France en 1870, puisque les juifs, comme les autres originaires des territoires cédés à l'ennemi, avaient la possibilité de devenir français. Mmh. Et sa famille opte sans aucune hésitation pour la nationalité française. À 18 ans, toujours à Paris, il opte pour le séminaire israélite, où il va s'illustrer par un caractère qui lui vaudra, je crois, l'estime et l'amitié de tous ses camarades. On le décrit comme gay, enjoué, avec une très belle voix chaude et une image qui ne trompe pas. On le décrit déclamant du Lamartine. Son frère, lui aussi, qui s'appelle Armand, entrera également dans la voie rabbinique ensuite. 2 ans après lui, il entrera au séminaire israélite. L'un et l'autre bénéficieront d'une bourse, puisque leur père était ce qu'on appellerait aujourd'hui représentant de commerce et faisait voyager entre Paris et Arras, et c'était une famille extrêmement modeste. Et donc, on ne sait pas grand-chose sur les études du grand rabbin Bloch, si ce n'est que, globalement, il a des notes tout à fait honorables, moins toutefois que son frère Armand. Et c'est là que le travail de l'auteur de ce livre est intéressant. L'auteur de ce livre, Paul Netter, n'est autre que l'arrière-petit-fils du rabbin Abraham Bloch. Et c'est lui qui est parti à la recherche, justement, déçu de ne pas en savoir plus sur son aïeul, qui est parti à la recherche de documents, d'iconographie, d'attestations, de témoignages sur ce personnage qu'on lui citait depuis son enfance, mais qu'en définitive, il connaissait très mal. Il y a donc une recherche des racines qui a permis de mettre au jour pas mal d'éléments. Alors, pas tout, parce que malheureusement, beaucoup de documents ont été détruits et on n'a pas tous les témoignages d'époque, mais ce qui est clair, c'est que le rabbin Abraham Bloch était un personnage aimé, estimé, qui avait une vie sociale tout à fait ouverte et qui ne se distinguait pas finalement beaucoup d'autres étudiants, d'autres confessions à la même époque. En 1883, il sort il termine ses études et il obtient le premier degré rabbinique, ce qui lui permet de postuler à un poste, demander un poste, et comme par hasard, à Remiremont dans les Vosges, d'où sa famille est originaire, il y a un poste à prendre. Il se met donc sur la liste des candidats, et malgré son jeune âge, puisque je crois qu'il n'a pas encore 25 ans, grâce à une dispense qu'il obtient, il est envoyé là-bas, ce qui est une espèce de retour aux sources et aux racines familiales. Il se retrouve donc à Remiremont, qui, nous dit le précieux guide Johan de l'époque, est une commune de mémoire de 8231 habitants, célèbre pour sa très grosse filature, et oui, c'était à l'époque où les Vosges avaient encore une activité économique digne de ce nom, célèbre pour son palais abbatial et pour sa gastronomie, notamment la quiche lorraine. Voilà, j'avoue être allé assez souvent à Remiremont et ne pas avoir gardé un souvenir impérissable de la quiche lorraine. Cela étant, c'est une très belle ville. Et donc, c'est là qu'il va faire ses premières armes et il s'y révèle comme un personnage, là encore, on dirait aujourd'hui consensuel, qui est aimé de tout le monde, qui petit à petit étend son influence sur les villes voisines et qui enseigne la foi rabbinique, la foi juive, à ses coreligionnaires. En 1191, il se marie. Il est tellement apprécié qu'il songe, maintenant qu'il a charge de famille, à obtenir une charge un peu plus reconnu et peut-être un peu plus gratifiante également sur le plan de la subsistance. Et il se porte candidat au poste de grand rabbin d'Alger en 1897, qui était un poste important, mais en même temps un poste difficile à tenir. On songe à ce qu'était l'Algérie à l'époque. On était en plein dans la période de l'agitation antisémite. Ce n'était pas ce qu'on appellerait une sinécure.
Drumont
était député d'Alger. Ça en dit long sur le ton des polémiques qui pouvaient se développer là-bas. Nous reproduisons d'ailleurs dans le livre un journal que Paul Netter a retrouvé qui s'appelle « Y a-t-il meilleure façon d'annoncer la couleur que celle-là » qui s'appelle tout bonnement l'anti-juif, dans lequel on se déchaîne contre le rabbin Bloch. Et là, il se montre conforme à ce que le préfet, ou plus exactement le sous-préfet, avait écrit, puisque le ministère des cultes était appelé à donner son avis sur les nominations, et notamment les nominations de rabbins et de grands rabbins. Et le sous-préfet avait écrit qu'il avait rempli dans ses Vosges familiales ses fonctions de manière satisfaisante et avec beaucoup de tact, et qu'il avait une attitude politique républicaine. Et je crois que ses vertus vont lui permettre de faire face à cette situation, cette crise extrêmement chaude, cette situation extrêmement tendue, avec à la fois doigté et puis le sens de... J'allais employer un horrible mot anglais, le sens du commandement. Et il se retrouve avec une situation que d'autres auraient qualifiée d'ingérable. En particulier, la communauté israélite d'Alger, ou algérienne en général, est complètement coupée en deux, entre d'un côté les nantis, et de l'autre une espèce de lumpen prolétariat juif qui ne se sent même plus juif. Et on a dans la presse de l'époque, exhumée par Paul Netter, des scènes absolument surréalistes, où des pauvres juifs défilent dans la rue en réclamant la mort des riches juifs parce qu'ils ne se sentent plus du tout solidaires de cette partie de la communauté. Et ce grand rabbin, Abraham Bloch, va avoir un doigté suffisant pour arriver, d'une part, à réconcilier un peu ces tendances. Il va avoir des initiatives intelligentes. Il va créer notamment des espèces de... ce qu'on appellerait aujourd'hui des réseaux d'entreprises, puisque les juifs pauvres ne trouvent pas de travail, il va leur donner du travail, il va imaginer des concentrations horizontales ou verticales des différentes activités pour qu'elles se complètent et se renvoient à la manne financière. Et puis il va aussi avoir à gérer, sur un plan moins brûlant, mais plus difficile sur le plan de sa mission, il va avoir à gérer tout un tas de faux rabbins qui écumait l'Algérie à l'époque, qui administrait les sacrements sans en avoir le droit ni le titre, et qui, sommé par le consistoire central de démissionner, envoie balader tout le monde en disant « mais pas du tout, j'y suis, j'y reste ». Enfin, il est vraiment là dans une espèce de bouillon de sorcière dont il se tire avec les honneurs. Il manque d'ailleurs de mourir en héros une première fois à cette occasion, puisqu'un de ses coreligionnaires, estimant que le secours qu'il perçoit de la communauté israélite est insuffisant au regard des besoins de sa famille et de la faim et de la famine dans laquelle il vit, lui porte un coup de couteau dans la rue, lui enfonce un couteau avec une lame de 12 cm au point que le grand rabbin passe pour mort, qu'il y a un échange de télégrammes entre Alger et Paris pour dire « grand rabbin au port de la mort ». Fort heureusement, Abraham Bloch a une constitution solide, il surmonte ses blessures, il se rétablit assez vite et, pris de remords, son assassin potentiel, qui n'avait pas réussi à le tuer, après avoir purgé une peine qui était loin d'être symbolique, fera même appel à lui pour la circoncision de son petit dernier. C'est-à-dire que le rabbin Bloch avait un talent de négociateur et je crois une aura. Il ne faut pas sous-estimer le coefficient de son charisme. Son frère Armand, qui deviendra grand rabbin de Bruxelles, était incontestablement plus brillant sur le plan académique, mais beaucoup moins doué pour déminer, comme nous dirions aujourd'hui, des situations potentiellement explosives.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Donc nous laissons le grand rabbin d'Alger, où il fait du bon travail, pour le retrouver candidat cette fois au poste de grand rabbin de Lyon, qui est une charge encore beaucoup plus importante et cela étant beaucoup plus facile à assumer parce que Lyon est une ville beaucoup plus pacifique. Et il va donc devenir grand rabbin de Lyon. Il était au coude à coude avec un autre candidat, les deux étaient d'égal mérite, mais j'imagine que les autorités ont trouvé qu'il avait suffisamment, ils le disent d'ailleurs je crois dans la motivation de leur choix, il avait suffisamment prouvé ses qualités d'homme et ses qualités de pasteur auprès de sa communauté à Alger pour qu'on le suppose capable de faire de l'aussi bon travail à Lyon, ce qui ne manquera pas d'arriver. Lyon, sinécure comparé à ce qu'il vient de vivre, jusqu'en 1913, il a 53 ans, et là il reçoit un appel du ministère de la guerre, qui demande des volontaires pour assurer les fonctions d'aumônier auprès des troupes. Alors là, Philippe Conrad, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Nous avons, avec l'auteur, cherché une raison qui pouvait faire qu'en 1913, le ministère des armées, ou le ministère de la guerre plus exactement, se préoccupe de recruter des aumôniers. Les bruits de guerre n'étaient pas plus forts en 1913 qu'en 1912. On n'était pas a priori dans le scénario d'un embrasement généralisé.
Je pense que c'est lié simplement à une raison toute simple, c'est que la loi de 1913 qui portait le service à 3 ans augmentait les effectifs de manière très significative et que donc il fallait un encadrement qui était lui-même plus important, je crois.
Très bien.
Donc c'est ça.
Et donc il se porte volontaire à 53 ans. Il aurait pu dire, bah, écoutez, non, vous êtes gentil, je vais désigner un confrère plus jeune et plus agile. Il se porte volontaire et pas de chance, le 1er août, il est mobilisé. Et il faut croire qu'il y a un tropisme vosgien dans la famille d'Abraham Bloch, puisque après un certain nombre de... Après le centre de recrutement et de regroupement, il est envoyé immédiatement dans ces Vosges, où il subit, alors là, ce que tous les poilus ont décrit à l'époque, les marches, les contre-marches, on ne sait pas très bien où on va ni pourquoi on y va. Il le décrit très bien. Dès le premier jour, il tient son carnet de guerre. Il a une plume tout à fait alerte. Il écrit tous les jours à sa famille, ce qui fait dire d'ailleurs à son arrière-petit-fils que c'était quand même un rabbin relativement tolérant, dans la mesure où même le samedi, il écrit, ce qui normalement est formellement interdit le jour du Shabbat. Autre preuve de sa tolérance et de son ouverture républicaine, il est également très ami du prêtre catholique et de l'aumônier protestant avec lequel il popote, comme on dit. Il partage les soirées, généralement chez le curé de la ville dans laquelle ou du village dans lequel il s'arrête, le tout en bonne intelligence. Et là encore, il fait preuve de qualités humaines qui seront unanimement reconnues après sa mort. Il est en première ligne comme brancardier, puisque les aumôniers ont également un rôle de soutien moral, certes, mais aussi de soutien médical auprès des blessés. Et le 29 août, il se retrouve au sein du corps des brancardiers de la 58e division de réserve à laquelle il appartient. Il se retrouve sur un glacis des Vosges que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises, qui s'appelle les Champs Mauvais, c'est difficile là aussi d'annoncer davantage la couleur, où l'artillerie allemande pilonne de façon très violente les troupes qui s'avancent. Il s'avance avec ses camarades et il se porte au secours d'un blessé qui l'appelle, et le blessé, le prenant pour un aumônier catholique, l'appelle auprès de lui. Alors, le prenant pour un aumônier catholique, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, ça ne l'est pas. Si on regarde les textes de l'époque, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas d'uniforme des aumôniers. Certains aumôniers, plus proches de la chose militaire, avaient à cœur de se déguiser un peu en officier. D'autres, plus simplement, qu'ils soient catholiques, protestants ou en l'espèce juifs, se contentaient de revêtir une capote assez ample, et on les reconnaissait que par les insignes qu'ils arboraient, la croix évidemment pour les aumôniers catholiques et protestants, et s'agissant d'un aumônier juif, les tables de la loi brodées sur la manche de la capote ou du manteau. Évidemment, le pauvre blessé qui gît dans l'herbe vosgienne ce jour du 29 août ne peut pas apercevoir les insignes des tables de la loi du rabbin, le prend pour un curé, ce qui est assez compréhensible, parce que les rabbins n'étaient pas majoritaires, il s'en fallait de beaucoup à l'époque, et lui demande, car il sent qu'il va mourir, de lui apporter un crucifix. Alors là, les récits divergent un petit peu. Certains disent que l'aumônier juif se serait précipité à l'église du village pour y chercher un crucifix. Ça me paraît totalement exclu dans la mesure où le village de Tintru, qui est le plus proche, est très nettement en contrebas et que c'est une marche que j'évalue à au minimum 2 heures pour un homme en pleine forme. Un aumônier de 53 ans en pleine bagarre ne va pas faire 2 heures aller, 2 heures retour pour aller chercher un crucifix. Plus vraisemblablement, il s'adresse à son confrère catholique, lui emprunte le crucifix et le donne le temps au blessé qui peut l'embrasser et qui meurt donc dans sa foi. Et le grand rabbin, à ce moment-là, continue à brancarder les blessés. Et au moment où il amène un blessé à l'ambulance, un éclat d'obus le frappe à la cuisse. Il a probablement l'artère fémorale sectionnée et il meurt quasi immédiatement. Et sa mort est immédiatement signalée à l'arrière par l'aumônier catholique, qui transmet évidemment les nouvelles de sa mort, par le régiment qui signale sa mort, mais sans donner de détails. Et très rapidement, le grand rabbin va devenir, au-delà de sa mort héroïque, il faut bien appeler les choses comme elles sont, au service de ce pays qu'il s'était choisi, va devenir un symbole de ce qui à l'époque était extrêmement important pour la France, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'union sacrée, cette réconciliation fraternelle. D'ailleurs, il emploie, quand il décrit ses cantonnements avec ses confrères curés et pasteurs, il emploie le mot fraternel, ce qui est assez beau. Il va devenir, dès les quelques jours qui suivent sa mort, le symbole de cette réconciliation, de ces Frances plurielles ou multiples qu'on a pu voir s'affronter dans des guerres intestines et fratricides. Il va devenir ce symbole de l'union sacrée. Et à l'arrière, les journaux s'emparent de son décès sur le front. L'illustration lui consacre un très grand article qui explique qu'il est mort en héros en apportant la croix à un blessé chrétien. Et tout un tas de personnalités, même parmi des gens qui ne passaient pas pour particulièrement philosémites avant la guerre, y compris un certain nombre d'antisémites patentés, vont acclamer son geste et chanter ses louanges. On a des textes de Barrès, on a un texte, alors lui n'était pas antisémite, mais un texte de Claudel, qui s'appelle « La nuit de Noël 1914 ». Tous ces textes, vous les trouverez dans le livre, parce que son descendant a fait des recherches savantes pour retrouver les articles, les poèmes, les lettres. Et dans cette nuit de Noël 14, Claudel fait dialoguer un enfant qui regarde au fond d'un puits et un curé qui lui demande ce qu'il y voit. Et parmi les choses que ce garçon voit, il y voit un rabbin qui apporte le Saint-Sacrement à un mourant. Donc, le grand rabbin Bloch, qui est par ailleurs le premier rabbin à tomber sur les champs de bataille en 1914, parmi les tout premiers, va devenir cette espèce de figure emblématique dont le peintre Lévi Durmer va s'emparer. Et on lui doit un très beau tableau représentant un tout petit peu grandiloquent, comme c'était la mode à l'époque, mais représentant le rabbin avec ce crucifix dans une ambiance de fin du monde parmi les explosions. Et cette image pieuse, entre guillemets, du grand rabbin va faire le tour du monde. Et elle sera distribuée dans les écoles rabbiniques et dans les séminaires juifs à tous les enfants méritants, avec un texte redisant ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire sa mort. Alors, après-guerre, évidemment, on va continuer à parler de ce symbole. Ça va être l'occasion de favoriser la cicatrisation des plaies de la guerre et de pousser un peu plus avant l'union sacrée, jusqu'en 1940. Et là, 1940, évidemment, revers. On lui a érigé une stèle là, à l'endroit même où il est tombé, donc sur ce champ mauvais, au col d'Anozel, au-dessus de Tintru. Stèle toute simple, où on dit « Sigi », etc. Et quand les Allemands vont arriver, évidemment, leur premier soin sera de jeter bas cette stèle, qu'ils se proposent de fouler de leur chenille de Panzer à la première occasion solennelle venue. Et là, on a un geste assez symbolique aussi, décidément autour du grand rabbin Bloch, beaucoup de symboles éclosent et se pérennisent. On a le secrétaire de mairie, tout à fait inconnu, et je crois l'instituteur, qui se précipite nuitamment pour récupérer la stèle, qu'il enterre en un lieu tenu secret. Elle sera redéterrée après la libération. Elle va devenir un lieu de pèlerinage et un lieu de visite où auront lieu, je vous passe les détails, là aussi vous les trouverez dans le livre, ainsi que les photographies, où vont avoir lieu dans l'après-guerre beaucoup de cérémonies appelant justement à cette réconciliation nationale. On en avait là encore de nouveau bien besoin, et à cette union sacrée que les Gaulois ont décidément beaucoup de mal à trouver. Alors vous disiez tout à l'heure, Philippe, que le grand rabbin a été honoré. Oui, c'était le 100e anniversaire de sa mort, le 29 août dernier. J'ai eu le plaisir d'avoir un appel de l'aumônerie israélite des armées. L'aumônier général des armées et de l'école polytechnique était à l'époque Haïm Korsia, qui depuis a été élu grand rabbin de France à la place du rabbin Bernheim, qui avait été victime d'une campagne à la suite de faits sur lesquels on n'insistera pas. Et le grand rabbin de France, alors aumônier général des armées, m'a demandé de lui faire tenir des livres, ce qui pour l'éditeur est toujours plaisant, qu'il se proposait de distribuer. Et j'ai eu la surprise d'être invité à une grande cérémonie sur la stèle en l'honneur du grand rabbin Bloch à Tintru, le 29, le jour de l'anniversaire de sa mort, cérémonie à laquelle le grand rabbin est venu assister depuis Paris, à laquelle assistaient de nombreux rabbins des armées françaises en grand uniforme. Et il y a eu des discours, comme ça se fait dans toutes les cérémonies officielles. Je veux dire que je suis un tout petit peu blasé sur les discours. J'ai été authentiquement ému par le ton, par le contenu et par l'ambiance qui se dégageait de cette cérémonie, qui s'est clôturée, et je crois que c'est un symbole très fort qui nous interpelle, comme on ne dit plus, mais pour une fois le mot serait assez bien choisi, par ces périodes, en ces périodes troublées. Le grand rabbin de France a appelé le curé de Saint-Dié à dire un Notre Père après avoir chanté les prières juives sur la stèle. Et donc, je crois qu'on est là, on a là la pointe d'un phénomène qui est prégnant aujourd'hui, qui est cette espèce de recherche à nouveau d'une unité nationale au-delà des clivages, au-delà des différences, au-delà même des conflits qui ont pu exister. Je crois que beaucoup de Français aujourd'hui sentent qu'il est important de se serrer les coudes, passez-moi l'expression, et à l'image de ce grand rabbin, de chercher davantage ce qui nous rassemble que ce qui nous divise, et si possible même d'oublier ce qui nous divise.
Est-ce que le grand rabbin Bloch avait un lien de parenté avec Marc Bloch, l'historien ?
Pas que je sache. C'est un nom extrêmement courant, oui, pour vous donner une idée. Même Abraham Bloch, je crois que le rabbin qui l'a remplacé lors de son premier poste dans les Vosges s'appelait déjà Abraham Bloch. Donc pas que je sache, je ne crois pas qu'il ait eu de parenté. Pourtant, Paul Netter a fait un arbre généalogique très précis de son aïeul, et je ne crois pas qu'il y ait de parenté.
Vous écoutez Radio Courtoisie, et Philippe Prévost nous parle du livre...
Jean-Pierre Thurberg.
C'est Jean-Pierre Thurberg, pardon. Oui.
Mais Philippe Prévost pourrait parler du grand rabbin Bloch. J'atteste qu'il connaissait parfaitement cet épisode.
Il connaissait quand même beaucoup moins que vous. Mais enfin, je connaissais son nom et son rôle.
Comme disait, je crois, Alexandre Dumas, quand on ne connaît rien sur un sujet, on publie un livre. Ben, c'est exactement ce que je fais. J'ai l'occasion de m'instruire. Non. Vous connaissiez parfaitement cet épisode, ce qui n'est pas très fréquent, je dois le dire. Bon, maintenant, bien sûr, le grand rabbin de France a signé un grand papier dans le Figaroscope. Il y a eu des reportages de télévision, je crois. Nous allons faire deux expositions qui vont tourner dans toute la France. Donc là, le symbole va vivre. Mais je vous félicite de connaître cet épisode qui, jusque-là, était relativement passé sous silence.
Le livre est « Un grand rabbin dans la Grande Guerre » et c'est aux éditions italiques.
Alors je précise, pour terminer cet aspect écuménique et religieux, que j'avais déjà publié un livre sur l'abbé Tellier de Pongeville qui s'appelle « 10 mois à Verdun » que les auditeurs peuvent se procurer pour avoir le vécu d'un aumônier brancardier catholique. J'aspire maintenant à publier le récit d'un aumônier protestant. Je suis sur une piste. Quant à l'aumônier musulman, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Je tiens à dire quand même, et ça n'est pas tout à fait innocent, que le grand rabbin avait convié le représentant de la communauté protestante qui a présenté ses excuses, qui était retenu par une réunion à Paris. Il avait également convié le représentant de la communauté musulmane, lequel n'a pas jugé bon de répondre. Je cite là les paroles officielles du maître de cérémonie ce jour-là. Des choses à méditer.
Merci Jean-Pierre Turbac de ce portrait d'une figure effectivement méconnue de la Première Guerre mondiale. Alors, vous publiez aussi dans les jours qui viennent ce récit d'un petit Alsacien de Mulhouse qui nous raconte la guerre telle qu'il l'a vue entre 1914 et 1918.
Oui, un petit Alsacien dans la Grande Guerre. J'ai hésité longtemps à titrer un petit Mulhousien dans la Grande Guerre, sachant, comme disait je ne sais plus quel écrivain, qu'il y a deux façons d'atteindre à l'universalité. C'est soit d'être universel, soit d'être ancré dans une réalité microscopique. Puis j'ai fini par opter pour un compromis. Je ne sais pas si c'est le bon choix.
L'Alsace n'est pas une réalité microscopique.
Non,
c'est la voie moyenne, là.
Cela étant, je ne sais pas si les Haut-Rhinois... ne seront pas un peu frustrés de voir que Mulhouse remporte un tel succès. Bon. En réalité, ce livre est une rencontre, comme la plupart des livres chez les éditeurs, et encore plus chez les petits éditeurs, la rencontre entre mon souci de trouver des livres originaux, parce que, travaillant depuis 20 ans sur la guerre de 14, vous l'avez dit, on a déjà couvert pas mal de champs. Voyant les grosses divisions qui aujourd'hui déferlent à la faveur du 100e anniversaire dans les librairies, il est difficile de trouver le moyen de se singulariser, sauf à trouver un inédit du maréchal Pétain, ce qui évidemment est un joli coup. J'ai essayé là d'atteindre à l'universalité en parlant d'un microcosme que je connais bien, puisque la moitié de ma famille, du côté de ma mère, était originaire du Sungo et avait émigré, entre guillemets, de la région d'Alkirch à la région de Mulhouse, où elle se trouvait pendant la guerre de 14. Et c'est une rencontre avec la petite fille de Georges Hérold, puisque... le petit Alsacien s'appelait Georges Hérold. Anne Hérold, charmante jeune femme qui a pieusement recueilli tous les témoignages qu'elle a pu trouver sur son grand-père, qui avait trouvé ce carnet qui était écrit comme il se doit en allemand, qu'il a fait traduire par un ami presque contemporain mais plus jeune que son grand-père, et qui me l'a remis en disant « Regardez si ça vous intéresse ». Et je dois dire que j'ai été séduit très rapidement par beaucoup de choses. La première chose, bien sûr, c'est que ça se passait à Mulhouse, ville que je connais bien. Et donc, quand le petit Georges parle de Dornach ou de Burgwiller ou du monastère de Lönnberg, ce sont des lieux qui me parlent, parce que ce sont des lieux qui sont ma patrie charnelle. Et la deuxième raison, c'est que, comme vous le disiez, Philippe, le petit Georges Hérold, il a très exactement 11 ans et des poussières quand la déclaration de guerre survient, et c'est donc peut-être pas un bébé, mais c'est un très jeune enfant. Et quand la guerre se retire en 1914, il n'est pas beaucoup plus vieux, il a pris 4 ans, mais entre les deux, il y a toute l'initiation d'un enfant qui devient brutalement un adulte, qui ouvre les yeux sur les réalités de la vie, et qui ouvre les yeux, pas nécessairement sur les réalités les plus plaisantes de la vie. Et j'ai trouvé cette espèce de récit d'initiation à la vie d'homme intéressant, parce qu'il nous fait toucher du doigt une réalité que je crois beaucoup de parents touchent du doigt, c'est qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à expliquer à la jeunesse, aux enfants, ce qu'a pu être la guerre de 14. Alors évidemment, les ouvrages historiques purs ou les ouvrages stratégiques ne les atteignent pas. Il faut leur parler de choses qui les interpellent. Encore pardon pour ce mot un peu à la mode. Et Georges Hérold réussit cela très bien parce qu'il décrit en fait la guerre vue du haut de ses 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et au-delà de ce récit au quotidien, se dessine une fresque beaucoup plus vaste dans laquelle on peut recoller des morceaux qu'on a par la grande histoire. Mais c'est deux niveaux de lecture qui sont assez forts. Alors, très simplement, Georges, au moment de la déclaration de guerre, a, donc, comme je l'ai dit, 11 ans et quelques, son père est facteur. Souvenons-nous que depuis 1870, l'Alsace et une partie de la Moselle sont allemands. Donc lui se vit comme allemand. Il va à l'école allemande, il parle l'allemand, et quand il écrit ses carnets, c'est en allemand qu'il le fait. Son père est facteur, donc son père est fonctionnaire du Reich allemand. Il n'y a aucune interrogation de sa part sur une appartenance quelconque à une autre patrie que sa patrie de toujours, c'est-à-dire l'Allemagne. Quand il voit les affiches placardées dans Mulhouse, disant état de guerre, en fait, ce qui prélude à la mobilisation, il ne comprend pas. comme un gamin de 12 ans ne comprend pas. Il demande à son père de lui expliquer. Son père lui dit, bah, c'est très simple, nous allons nous battre contre les Français, et à partir de maintenant, tous les hommes, jeunes, moyennement vieux, et même peut-être les vieux, vont être conviés à endosser l'uniforme et aller se faire tuer, s'il le faut, pour défendre la patrie. Et heureusement, lui dit son père, moi qui ai été blessé pendant mon service militaire, je suis exempté et a priori je devrais passer à côté, à travers les gouttes. Hélas, non. 2 ans plus tard, quand le Reich allemand a besoin de soldats, il va être lui aussi réincorporé et il se retrouvera sur le front de l'Est. Il se retrouvera ensuite blessé à Stuttgart, mais bon, vous trouverez les détails dans le livre. Toujours est-il que ce père... disparaissant, Georges très rapidement va se trouver soutien de famille. Sa maman a suffisamment à faire avec les 3 puis 4 enfants qu'elle a, puisqu'elle a un petit garçon tout au début de la guerre. Et Georges va très rapidement se retrouver confronté à une réalité que nos jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas comprendre, je crois, qui est qu'à 12 ans, il faut qu'il aille gagner le pain de la famille. Et gagner le pain quand il n'y a pas de pain, quand il n'y a pas de travail et qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, c'était avant le prétendu réchauffement climatique, j'ai souvenir d'hivers de neige en Alsace où il faisait moins 20, moins 25, c'était le cas entre 14 et 18, gagner le pain de la famille pour un enfant de cet âge, c'est extrêmement difficile. Et il va se retrouver donc confronté à la lutte pour la vie et très rapidement aussi aux conséquences les plus horribles de la guerre, c'est-à-dire en fait les massacres, les bombardements, la mort qui frappe de façon aveugle le monsieur qui s'est réfugié sous un pont croyant être à l'abri et qui est soufflé par une bombe qui tombe, la maison qui est totalement traversée du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée par un obus qui fort heureusement n'explose pas, mais la maison qui se casse en deux, les blessés qui agonisent dans les rues, et là aussi quelle initiation, imaginez nos jeunes de 12 ans aujourd'hui confrontés à ces champs de blé qu'il décrit fort bien, dans lesquels poussent des coquelicots, mais aussi des pantalons rouges qui sont les cadavres des premières offensives françaises. Évidemment, c'est une initiation un peu rude. Alors, je suis tombé sous le charme de ce récit parce que on a les deux avantages. On a le récit d'un enfant, puisqu'il a consigné scrupuleusement toute son expérience pendant les guerres dans ses cahiers. Et on a aussi la faculté de synthèse d'un adulte. Il a repris ses carnets bien après la guerre, en 1932, et il en a refait une synthèse, ce qui nous permet d'avoir une mise en perspective, d'avoir une lisibilité qu'un récit brut n'aurait pas eue. Et l'autre intérêt de ces carnets, c'est qu'ils nous permettent de toucher du doigt une chose que j'ai vécue, qui est cette espèce d'ambivalence, de dualité, pour ne pas dire de schizophrénie de l'Alsace, qui n'est jamais ni tout à fait une chose, ni tout à fait son contraire, qui est résumé par la célèbre chanson « Le Hans im Schnurgeller ». Pour ceux qui ne parleraient pas le dialecte, je le traduis. « Le Hans im Schnurgeller », le petit Hans, qui est un petit garçon comme Georges, tout ce qu'il a, il ne le veut pas, mais tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. D'où frustration, etc., etc. Et c'est cette fameuse difficulté que tous les Alsaciens ont ressenti. Suis-je français, suis-je allemand? Alors au début de la guerre, il n'a pas d'état d'âme, pour employer une expression contemporaine. Mais rapidement, il va se trouver confronté à des questions. Il voit ces Allemands qui, a priori, sont ses compatriotes, enfin ces Allemands d'origine alsacienne ou ces Allemands venus d'Allemagne, sur lesquels il ne se pose pas de questions, il les voit évoluer dans un sens qui n'est pas nécessairement favorable. Il voit le raidissement de l'armée allemande, il voit la population qui est de plus en plus victime des mesures de rationnement, qui est victime des soupçons de tout le monde, de façon un peu caricaturale au tout début de la guerre, mais ça les auditeurs le savent. Mulhouse est la première ville libérée, entre guillemets, grande ville. En réalité, le premier village libéré ou reconquis par la France s'appelle Montrevieux, petit village situé aux abords de Mulhouse. Et quand il voit arriver les Français, pour lui, c'est Attila le Hun. Ce sont les ennemis. Il est très inquiet. Il se demande où il va pouvoir se réfugier. Les gens mettent leurs affaires dans des baluchons et se préparent à fuir devant les barbares. Et puis les Français arrivent. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas plus mauvais bougres que les Allemands qui étaient là 10 minutes avant, qu'ils ont les mêmes besoins, manger, boire et se mettre à l'abri. Et puis les Français refluent, et puis les Français reprennent l'avantage, et puis les Français repartent au moment où les événements plus graves les appellent du côté de la Marne, et ils commencent à prendre conscience de ce qui n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Et face à cette évolution des Allemands qui deviennent de plus en plus brutaux, de plus en plus, capot au mauvais sens du terme, il commence à se dire que finalement la France est peut-être son vrai pays. Et il ne tranche pas. Et à la fin de la guerre, bien évidemment, comme tous ses camarades, il sort, et comme tous les Alsaciens, ne nous voilons pas la face, il sort les couleurs bleu, blanc, rouge et il acclame le bon général Hirschauer qui vient définitivement asseoir la suprématie française sur Mulhouse. Mais ce n'était pas gagné au départ. Alors, je le résume très, très vite, résumer c'est trahir. Je crois que si vous voulez avoir une idée plus précise, vous avez une synthèse visuelle très simple de ce livre. Si vous allez sur le site des éditions italiques, n'importe quel moteur de recherche vous y amènera, vous aurez à partir de demain les dessins que j'ai tenus à ajouter à ce texte. J'aurais pu publier tout simplement comme un livre de texte, un livre noir, comme on dit dans le jargon du métier, ce carnet qui à lui seul suffisait à justifier une publication. J'ai trouvé que cet univers à la fois enfantin et brutal méritait d'être rehaussé par des enluminures, et j'ai pensé à un vieux complice qui n'est autre que Philippe Delestre. Philippe Delestre qui est l'illustrateur bien connu de la presse régionale de l'Est de la France, qui fait les dessins à la une de l'Est républicain, par exemple, ou des dernières nouvelles d'Alsace, ou du Bien public à Dijon, qui m'avait déjà donné un très beau livre qui s'appelle « La guerre est finie ». Philippe Delestre a toutes les qualités, parce que d'abord il connaît bien l'Alsace, il est lorrain d'origine, il connaît bien cette schizophrénie, puisque, il me le rappelait ce matin, sur les cinq cousins germains de sa maman, les cinq ont été tués pendant la guerre. Les sept, très juste. Certains sous uniforme français, d'autres sous uniforme allemand. Dans La guerre est finie, il montre bien cette espèce de suicide collectif de l'Europe entre des peuples qui, a priori, auraient pu faire l'économie de ce conflit. Donc, et il a le style hérité de Hansi, dont il est un des disciples, qui lui permet de représenter l'indicible de façon tolérable. Ce qui fait de ce livre... Autant le récit de Georges Herold est un récit d'initiation, autant je crois ce livre est aussi potentiellement un récit d'initiation à la Grande Guerre que les parents qui nous écoutent peuvent ne pas hésiter à mettre entre toutes les mains. Je crois qu'à partir de 7 ou 8 ans, ce livre est une présentation à la fois tolérable et réaliste, parce qu'il ne faut pas non plus peindre la réalité en rose quand elle était plutôt rouge sang. Et donc Philippe Delestre apporte à ce livre à la fois de la couleur, à la fois de la naïveté, à la fois du charme, mais aussi l'horreur qui naît de cette cohabitation entre le quotidien enfantin, de ces gosses qui jouent à la guerre en attelant un chien à une petite charrette et en tirant un vieux tuyau de poêle nanti de roue pour se doter d'un canon, et ces gamins qui, une heure après, vont voir dans les grands champs de blé dont je parlais tout à l'heure les soldats français et allemands qui se sont mutuellement embrochés sur leurs baïonnettes et qui restent à genoux face à face. Il décrit lui-même dans une jolie expression, dans un dialogue obscène. Et je crois que ce livre est vraiment, de tout ce que j'ai lu jusque-là, c'est une des meilleures introductions pour expliquer ce qu'est ce phénomène de la Grande Guerre aux petits-enfants.
Rappelez-nous le titre, s'il vous plaît.
Un petit Alsacien dans la Grande Guerre, 1914-1918. Georges Herold, dessin de Philippe Delestre. J'ajoute que...
aux éditions italiques.
Aux éditions italiques, merci. J'ajoute que, frustré par l'absence d'apparat critique de ce journal, ça n'est pas dans les lois du genre, j'ai voulu vérifier, il donne une chronologie au début, pratiquement jour par jour, heure par heure, de ce qui se passe. Après, évidemment, la chronologie devient moins pertinente, parce qu'en gros, je vais vous en dire un mot, son quotidien, c'est chercher la nourriture, essayer de rester en vie, rapporter du pain, du lait à sa famille. Mais au début, il date jour par jour, heure par heure, l'arrivée d'un avion français, les affrontements de Dornach, le fait qu'on a fusillé de façon sommaire quelqu'un qu'on a pris pour un espion. Vers la fin, évidemment, la chronologie est moins respectée, mais j'ai tenu à la faire vérifier par un spécialiste. Il s'agit d'André Eckendorn, qui est un historien de Mulhouse, qui connaît bien sa ville, et qui m'a dit « je n'ai trouvé qu'une seule erreur, probablement imputable à une mauvaise datation de notes, c'est la fameuse réquisition des cloches que l'armée allemande récupère pour aller fondre et transformer en canons et en cartouches, que lui date de mémoire de 1915 et qui date de 1916. » Enfin, je cite ça de mémoire. Sinon, ce petit livre a en plus l'atout d'être parfaitement fidèle à la réalité de ce qu'ont été ces premiers jours de guerre. Alors, un mot sur la lutte pour la vie. Ce garçon va s'engager, alors qu'il a 13 ans ou 12 ans et demi, comme pionnier dans l'armée allemande, non pas par idéologie ou par conviction, mais parce que c'est l'occasion pour lui de gagner de l'argent. Il va se retrouver en première ligne, il va creuser des tranchées, il va couper des fascines pour étayer les tranchées qui s'écroulent avec l'humidité, il va couler des embases pour les pièces d'artillerie, il va pousser les chariots du chemin de fer à voie étroite pour poursuivre la ligne. Enfin, il va vivre vraiment la vie d'un petit soldat. Et il y a tout un tas de scènes que vous découvrirez, dans lesquelles il décrit, toujours avec ce mélange de naïveté et aussi d'humour, parce que les Alsaciens, je ne manque jamais l'occasion de le rappeler, sont les méridionaux de l'Est, et ils ont toujours un petit sourire en coin quand ils décrivent les choses, même les plus terribles. Il décrit les tensions entre les individus, entre ses camarades, les rivalités, les bisbilles avec l'encadrement, et puis finalement ce grand soulagement que sera l'arrivée de l'armée française, qui apporte, alors certes, la liberté, la République une et indivisible et tout un tas de choses dans ces chariots, mais qui apporte surtout une denrée dont on rêvait beaucoup, qui était le pain, P-A-I-N. C'est le mot, je crois, qui revient le plus dans ce récit, qui est à la fois beau, poétique et un peu angoissant.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad. Et nous venons d'entendre Jean-Pierre Thurberg qui nous parlait du livre « Un petit Alsacien dans la Grande Guerre ».